Yofi! Alors, Boker Tov, Erev Tov, tout ça comme d'habitude, les amis, et on revient dans notre étude de Parashat HaShavua. Et aujourd'hui, Choukat, alors là, on a du pain, on a beaucoup de choses à dire sur cette Parashat extraordinaire. Et Dafka, pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. Et donc, l'histoire aujourd'hui est une histoire tragique. C'était le roi de Tula. Ouais. C'était le roi de Tula et il était la capitale, c'est vrai, Tula était la capitale des Toltecs. Oui. Le roi en question s'appelait Quetzalcoatl. Et puis, il faut que tu saches que Quetzalcoatl a été séduit par Tezcatlipoca. Oui, c'est des noms compliqués. Mais le problème, c'est comme il était jaloux de son rival, eh bien, Tezcatlipoca enivra Quetzalcoatl et l'amena à rompre ses vœux de chasteté. Chassé de Tula, Quetzalcoatl parvint au bord de la mer où il s'immola par le remords. Son cœur, qui s'était échappé des cendres, devint alors l'étoile du matin sous le nom de Etlaïtlaklaplapentechklikli. Voilà. Eh bien, ça, c'était les annales de Cahuitila dans le monde des Aztèques, paru en 2008. Oui, je viens de vous raconter l'histoire de Quetzalcoatl, le grand serpent à plumes dans la mythologie aztèque. Ok. Quel rapport avec la soupe, me direz-vous? Eh bien, on va voir, on va laisser de côté notre serpent à plumes, notre Mashiach version aztèque, et on va revenir à notre histoire. Alors, revenons dans la paracha de Choukat. Alors, ça y est, paracha de Choukat, eh bien, on a fait un bond en avant, puisque dans la paracha de Korach, on avait dit la semaine dernière qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe. Là, pour le coup, paracha de Choukat, eh bien, les choses sont établies. On est 40 ans après la sortie d'Égypte. Enfin, 39 ans, pour être exact, après la sortie d'Égypte. On est la 40e année du désert. Ça y est, les choses ont énormément évolué. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut se poser une question très importante. La paracha de Choukat, en fait, est la première qui va ouvrir la nouvelle génération. La génération de ces Juifs qui ne sont plus ceux qui sont sortis d'Égypte, mais qui sont la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Et ça va avoir son importance de comprendre qu'il ne s'agit pas des mêmes personnages, eh bien, ça va avoir une importance capitale. Notre paracha de Choukat commence évidemment par l'histoire de la para Adouma. Nous dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 60, « D'amar Rabbi Levi, shmone parashiyot ne'emru beyom sheukambo amishkan, elouem, parashat Kohanim, parashat Levim, parashat Temeim, parashat Shimach Temeim, parashat Acharemot, parashat Shtuye Yain, parashat Merot, parashat Para Adouma. » Nous dit donc ici le Talmud que la parasha de Para Adouma, ça fait très longtemps qu'elle a été donnée. Elle n'a pas été donnée simplement ici, la 40e année du désert. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce maintenant que la parasha est en valeur? Si elle a déjà été donnée depuis longtemps, eh bien, on doit se poser pourquoi la Torah n'en parle que maintenant. Eh bien, les amis, la réponse est très simple. Parashat Choukat, comme on l'a dit, est la paracha où nous allons commencer à prendre possession de la terre d'Israël. Ce qui veut dire, eh bien, que nous allons être confrontés aux habitants de la terre d'Israël et que donc, nous allons devoir faire la guerre. D'ailleurs, dans notre paracha, il y a bel et bien la guerre. La guerre contre Akhenani Melech Arad, la guerre contre Sichon, la guerre contre Edom, la guerre contre Og. Donc, autant vous dire que oui, dans notre paracha, la guerre, bien que terriblement négative, on n'en veut pas de la guerre, eh bien, on sait qu'elle a un rôle à jouer et c'est maintenant qu'elle commence. Or, bah, dans une guerre, il y a des morts. Que la mort apparaît pour la première fois comme étant quelque chose qui n'est pas seulement naturel, mais qui peut être provoqué. Et donc, notre paracha doit nous montrer que la mort n'est pas la fin du voyage. Qu'on ne n'accepte pas que la mort soit le point final. Et c'est pourquoi, eh bien, nous recevons l'histoire de Para Aduma. Et alors là, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. L'histoire de la Para Aduma, eh bien, nous dit la Torah, Zot Chukat HaTorah. C'est un choc. Mais il serait complètement erroné de penser qu'un choc, ça veut dire qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a plein de gens qui disent comme ça. Ouais, les choukim, faut pas chercher à comprendre, faut faire sans réfléchir. Absolument pas. C'est vrai qu'il y a une différence entre choukim et mishpatim. Tout à fait. Les mishpatim sont des lois qui certes nous ont été données par Dieu, mais que si Dieu ne nous les avait pas données, eh bien, on aurait très bien pu les inventer tout seul. La preuve, c'est que d'autres cultures auxquelles Dieu ne s'est pas révélé, eh bien, ont également réussi à arriver à ce genre de loi. Par exemple, tu ne tueras pas. Mais il y a des lois qui, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas, eh bien, donné la loi, on n'y aurait pas pensé. Ce sont des choukim. Donc, ça veut dire quoi, choukim? Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Mais entre eux, il y a quelque chose qui m'échappe et il n'y a rien à comprendre, eh bien, il y a une différence énorme. Tous les choukim doivent être étudiés. Rashi nous dira dans notre paracha, c'est un choc et donc, tu n'as pas le droit d'aller commencer à remettre en cause. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, ça veut juste dire que même si tu ne comprends pas tout, tu ne remets pas en cause cette mitzvah-là et tu la fais quand même. Parce que tu sais qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais en aucun cas, la Torah nous demande d'être stupide, ignorant, et que lorsqu'on rencontre un choc, eh bien on dit, yala, on tourne la page, on ferme le livre et terminé.
Alors c'est pour ça que Shlomo, il a dit, Arkema, Verifokam, Imen.
Bidiouk ! J'allais citer Arshav Kohelet, qui nous dit, Kol Zot Nisiti Bachokma, Amarti Erkama, Verifokam, Imen. C'est-à-dire que Shlomo, il a essayé de comprendre, il a étudié, il a compris des choses, mais il a compris aussi qu'il n'avait pas tout compris. Et donc, c'est très important. Tous les choukim, on a quelque chose à en tirer. Je vais vous donner deux exemples avant d'arriver à ma Para Aduma. Un des choukim les plus connus, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Demandez à un gastronome français, eh bien, il va bien vous expliquer que les mélanges, poulet à la crème et tout ça, c'est très bon. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande? Alors, il y a plein d'explications aujourd'hui diététiques, comme quoi ce ne serait pas bon pour le transit et tout ça. Oh, et Roliot. Mais venez, on va essayer de comprendre au niveau moral. D'après le judaïsme, l'homme est au-dessus de l'animal. Et donc, il peut utiliser l'animal. Mais quand on y réfléchit bien, boire du lait, quelque part, c'est du vol. On a volé l'animal, que ce soit la vache, la brebis ou autre. On a volé l'animal, ça ne nous appartient pas ce lait. Mais dans la mesure où l'homme est élevé par rapport à l'animal, eh bien, on va utiliser l'animal pour exister, pour grandir, pour nous élever. Donc, le lait, c'est un vol qui est permis. Alors que manger un steak, c'est un meurtre qui est permis. Parce que là encore, on est au-dessus de l'animal. Bon, la Torah te l'a permis, mais ne viens pas penser que dans ton échelle de valeur, il n'y a pas de différence entre le vol et le meurtre. Il y a une différence. Et même si là, pour le coup, au niveau de l'animal, les deux te sont permis, tu ne peux pas les mettre sur le même plan. On ne mélange pas le lait et la viande. De la même façon, nous dit la Torah, on ne mélange pas dans nos habits le lin et la laine. Alors pour nous, occidentales qui s'habillent en coton et autres soies et acryliques, synthétiques, on ne se rappelle plus bien ce que ça veut dire le matériau des vêtements. Mais à l'époque, lorsqu'un juif sort d'Égypte et qu'on lui dit « tu ne mélangeras pas le lin et la laine », eh bien, les choses sont claires dans sa tête, évidemment. Puisque pour s'habiller en lin, il faut du lin. Or, le lin, ça pousse au bord du Nil. Les Égyptiens s'habillent en lin. Alors que les Juifs, eux, n'ont pas de propriété au niveau de la terre, mais les Juifs sont des bergers en Égypte. Les bergers, d'ailleurs, qui sont une abomination pour les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas bergers, puisque leur dieu principal, c'est le bélier. Ils ont donc de la laine. Donc, lorsqu'un Hébreu entend « tu mélanges pas le lin et la laine », alors qu'il sait depuis 210 ans que les Égyptiens s'habillent en lin et que eux s'habillent en laine, eh bien, ça veut dire pas d'assimilation, pas de mariage mixte. Donc, vous comprenez que même s'il y a forcément d'autres choses à comprendre, eh bien, on a déjà compris un petit peu de ces choukim-là. Et donc, quand on parle de Para Adouma, eh bien, c'est pareil. Para Adouma, son rôle est de venir purifier du contact avec la mort. L'impureté, c'est tout contact avec un manque de vie. Plus la chose dans laquelle tu es en contact manque de vie, plus tu es impur. Ainsi donc, eh bien, le top du top du top de l'impureté, c'est quand tu as touché un être humain mort. Alors, il y a d'autres formes d'impureté. Par exemple, les règles. Une femme qui a ses menstruations, eh bien, en fait, c'est un potentiel de vie qui est mort. Un homme qui aurait un épanchement nocturne, c'est là aussi un potentiel de vie qui est mort. Seulement, comme il s'agit d'une mort moindre, eh bien, se tremper et s'immerger dans les eaux du mikvé, ça suffit. Mais là, quand tu étais en contact avec la mort, eh bien, on te dit non. Là, c'est trop évident, le contact avec la mort. Il va falloir faire tout un cérémonial pour te ramener à la vie. Et c'est ça l'histoire de la Para Adouma. Prendre en petit, en microcosme, tout le cycle de la vie et montrer qu'il ne s'arrête pas à la mort. Vayomer Hashem el Moshe Zera vel Aaron lemor. Zot chukat haTorah. Asher tziva Hashem lemor. Daber el bene Israël veikru elecha para. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre une para, une vache? Eh bien, tout simplement parce que la vache est l'animal kasher le plus vivant, entre guillemets, le plus gros en contact avec l'homme. Alors, vous allez me dire, non, il y a le rhinocéros, mais c'est pas kasher. Alors, vous allez me dire, non, il y a la girafe. La girafe, c'est kasher. La girafe, il n'y a aucun problème, c'est kasher. D'ailleurs, non, c'est une erreur de penser qu'on ne peut pas manger la girafe parce qu'on ne sait pas où faire la shrita. Ch'touyote, on peut faire la shrita dans tout le cou de la girafe, donc franchement, tu as la place. Mais c'est juste que c'est un animal protégé et que donc, on ne mange pas de girafe. Mais pourquoi est-ce qu'ici, on ne parle pas de girafe? Ben, simplement parce que lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils n'ont pas de girafe domestique. La girafe n'est pas domestique. Et donc, eh bien, le plus gros animal en contact avec l'homme, c'est bel et bien, eh bien, notre vache. Ah, pourquoi pas un taureau, un bœuf? Eh bien, parce que la vache est doublement vivante, puisque elle aussi, elle va donner la vie. Donc, Vayikru Elecha Para, le plus gros du vivant, Adouma, Adouma, Adam, la couleur de la vie, la couleur du sang, la couleur de la pulsion, de l'amour. Mettez une assiette avec la confiture rouge et une assiette avec la confiture jaune devant des enfants, ben, la rouge, elle terminera plus vite. Hein, eh oui, la passion. Donc, Vayikru Elecha Para Adouma. Temima. C'est-à-dire que de l'extérieur, rien ne doit pouvoir nous montrer qu'il y a un amoindrissement de la vie. Donc, pas plus, vous dira, de deux poils qui ne sont pas rouges. Temima. Asher en Bamoum. Si on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un amoindrissement de la vie à l'extérieur, il ne faut pas qu'il n'y ait non plus un amoindrissement des forces de vie à l'intérieur. Pas de défaut. Asher lo ala alea ol, que l'homme n'a pas mis de poids sur elle pour amoindrir ses forces de vie, donc elle doit être pleinement vivante, naturellement, de l'intérieur, de l'extérieur, et que l'homme n'ait pas amoindri sa vie. Et à ce moment-là, donc, on parle du plus vivant soit-il. Et là, on te dit, on va la tuer. Parce que ce vivant, eh bien, meurt. On va le mélanger, cette cendre-là, on va la brûler, on va mélanger cette cendre avec Etz Erez. C'est le plus gros du vivant au niveau du végétal. Si la vache était le plus gros au niveau du vivant de l'animal, Etz Erez, le cèdre du Liban, eh bien, sont les plus gros arbres en contact avec les Bnei Israël. Certes, il y a des baobabs, séquoias, mais il n'y en avait pas à ce moment-là, à cet endroit-là. Et donc, on prend le plus gros du vivant avec le plus petit du vivant. Chez Nitolat, un verre. Et également, on va mélanger tout ça avec Agudat Ezob, le petit buisson de l'hysope. On va dire qu'on va prendre tout le vivant, on lui fait ce cycle de mort et on le mélange avec de l'eau de vie, Maim Chaim, non pas de l'eau de vie, mais de l'eau qui est la vie, qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu directement. Et donc, on vient nous dire, cette mort-là n'est pas la fin du voyage. Eh bien, au contraire, on va asperger tout ce qui a été détruit avec cette vitalité de l'eau et ça va ramener à la vie. Toute la para Adouma est pour nous dire la mort n'est pas le point final. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Eh bien, on ne comprend pas que le Kohen qui a rendu la vie, entre guillemets, qui a purifié celui qui est en face de lui, lui-même est rendu impur. C'est caché. Bon, il y a encore des choses à comprendre, mais on ne peut pas dire qu'on ne comprend rien. Para Adouma est là pour nous montrer l'idéal, j'allais dire, du peuple juif. Promouvoir la vie. Et c'est bel et bien de cela dont il est question. Am Israël rentre en Eretz Israël, il va devoir faire la guerre. Est-ce que c'est un barbare assoiffé de sang et de destruction et de mort? Ou est-ce un peuple qui est guidé par la recherche de la vie? Et des fois, il faudra faire la guerre, mais ça n'enlèvera pas que notre idéal sera la vie. Eh bien, une fois qu'on a dit ça, on peut arriver devant ce peuple. On peut enfin arriver devant le peuple juif, ce nouveau peuple juif. Et vous connaissez la suite du film. Myriam décède. Myriam meurt. Et donc, eh bien, le miracle qui l'accompagnait, ce puits de Myriam, cesse d'exister. Et les Bnei Israël, au bout de quelques jours, se retrouvent sans eau. Qu'est-ce qu'on fait quand on a soif? Eh bien, on va voir Moshe. Ça fait 40 ans que dès qu'il y a un problème, on va voir Moshe. Et si je vous dis que le Am Israël a soif et qu'il va voir Moshe et que Moshe va voir Dieu pour lui dire ils ont soif et que Dieu lui dit « Regarde, là-bas, il y a un rocher », eh bien, à quoi ça fait référence tout de suite? Et Moshe, il a tapé sur le rocher, comme diraient mes enfants. Et il est sorti du Coca-Cola. On connaît tous cette histoire de Moshe qui a tapé sur le rocher. Et quand on parle de Moshe qui tape sur le rocher, on a tout de suite une connotation très négative, où on se dit que c'est à cause de ça que Moshe a fauté et qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Sauf que, si on parle de rocher, de Moshe et de bâton, eh bien en fait, ça dépend de quelle histoire on raconte. Il y a deux histoires qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, avec une conclusion différente. Sefer Shemot, dans le livre de Shemot, au chapitre 17, on nous dit comme ça. Vaïsou koladat bene Israël mimidbar sin le maseem al pi Hashem, vaïachanou berfidim, ve'en maim lishtot ha'am. On est arrivé à Refidim, il n'y avait pas d'eau. Vaïarev ha'am im Moshe, vaïamrou tnou lanou maim vinishte. Le peuple est venu voir Moshe, il leur a dit donnez-nous à boire. Vaïomer lahem Moshe, matarivouni m'a dit, matenasoun et Hashem. Pourquoi vous venez vers moi? Pourquoi vous embêtez Dieu? וימצא שם העם ויצמא סירה שם העם למים וילן העם אל משה ויאמר למה זה ליטונו ממצרים להעמיד אותי ואת בניי ואת מקני בצמא ובני ישראל סובבים אמר משה ואומר לי פורקווה אתם נזפי סורטיר דג'יט פורקווה מוריך דסוע פיסידון דזר ויצק משה אל השם למור מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני משה ועבור דיו אלו די וכס כשפפר יבום יבום תשוי את עוד עזרונג ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידיך. והלכת. Dieu dit à Moshe, t'inquiète pas, prends ton bâton, le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et vas-y. הנני עומד לפניך שם על הצור, בחורב, והקית בצור ויצאו ממנו מים, Et Dieu dit à Moshe, tu prends ton bâton, tu tapes sur le rocher et ça sortira de l'eau et tout le monde est content. Voilà l'histoire. Moshe a tapé sur le rocher et ça a marché, ça a sorti de l'eau et tout le monde était content. 40 ans plus tard, nous nous retrouvons avec la même situation. Myriam décède, il n'y a plus d'eau. Les Bnei Israël viennent voir Moshe et lui disent « Que faire, Moshe? Il n'y a plus d'eau !» Eh bien, regardez, cette fois dans le livre de Bamidbar, donc dans notre paracha. Bamidbar, chapitre 20. « Vayavou Bnei Israël kol ha'eda mitbarzin bechodesh harishon, vayashev ha'am bekadesh, vatamot sham Myriam vatikaver sham, ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ואמרו למור, לו גבנו בגבה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו? ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים עין לשתות. לא כדי ישראל לדבר משה, et lui disent, on a soif. Encore une fois, tu nous amènes dans un endroit et tu ne nous donnes pas la possibilité de survivre. Tu nous as promis de nous emmener en terre d'Israël, on n'y est toujours pas et on n'a rien à boire. La même situation exactement qu'il y a 40 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même réaction? Eh bien regardez. ויבוא משה ואהרון מבני הקהל אל פתח או אל מועד. משה רונטרו דון למשכן ויפלו על פניהם וירא כבוד השם אליהם וידבר השם למשה לאמור אלא דיוס אדס המשה ואדס כלוידי. Encore une fois, tout le monde pense que c'est une erreur que Moshe a tapé sur le rocher, que Dieu lui aurait dit de ne pas taper et que Moshe a tapé. Et là, je tiens à le dire. Je m'inscris en faux. Je suis complètement contre cet avis de dire que Moshe a fauté. Moshe, il ne faute pas. Moshe, de tout ce qu'on sait de lui, n'est pas quelqu'un à qui Dieu dit A et lui, il dit je m'en fous, je fais B. Non, c'est l'homme Moshe. Moshe Rabbeinu, il fait ce que Dieu lui demande. On en a une tonne des exemples dans la Torah. Donc non, moi je n'accepte pas de dire que Moshe, tout d'un coup, il était énervé et donc il n'en a fait qu'à sa tête. Moshe ou tzadik. Alors comment comprendre ce qui s'est passé? Rabotai, vous allez voir que non seulement Moshe n'a pas fauté, mais que Dieu lui a dit de faire ce qu'il a fait. Ou du moins, Dieu lui a laissé le choix de comment tu veux agir. Regardez le texte. Donc on est dans le chapitre toujours 20 du livre de Bamidbar et là on nous dit Ve'akel Ezra ve'daber Hashem Moshe ve'Aaron lemor. Ve'daber Hashem Moshe lemor Ezra. Kach et amate. Prends ton bâton. Aha, prends ton bâton. À quoi ça sert de prendre le bâton ? Si après, c'est pour ne pas l'utiliser. Je rappelle que ça fait 40 ans qu'à chaque fois que Dieu il dit à Moshe de prendre son bâton, c'est pour faire avec son bâton un miracle. Donc là, il lui dit, prends ton bâton. Ve'akel et ha'eda ata ve'aaron achicha, et rassemble le peuple. Ve'dibartem el ha'sela, le'enehem. Et vous parlerez au rocher. Ah, alors pourquoi il va prendre le bâton? Ve'natan me'imav. Et il donnera ses eaux. C'est qui il? Le rocher. Le rocher donnera ses eaux tout seul comme un grand. Ok. Ve'otseta la'emmaim. Et tu leur feras sortir de l'eau. Je ne comprends pas. C'est le rocher qui donne de l'eau tout seul? Ou c'est toi qui leur fais sortir de l'eau? Eh bien les amis, c'est très simple. Dieu donne à Moshe deux options. Soit tu prends le bâton et tu leur fais sortir de l'eau, soit tu parles au rocher et il fait sortir de l'eau. Moshé, tu choisis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Tu peux choisir l'un des deux masloul, l'un des deux chemins. Et iné, voilà ce qui se passe. Vaikar Moshe et Amate, Milifne Hashem, Kasher Tzivaou. Il a pris le bâton comme il avait été ordonné. Vaikalou Moshe et Aaron et Kal, et Akal Israël et Pena Sela. Romer Alem, Shimmuna, Morim, Amina Sela, Zenotilachem, Maim. Regardez, vous croyez qu'on ne peut pas sortir de l'eau de ce rocher? Vaikarem Moshe et Yado. Moshe a levé sa main, il a frappé le rocher deux fois. Et ça a marché, l'eau est sortie et tout le monde a bu. Moi, j'aurais comprendre. Si Bémet, c'était assourd de taper sur le rocher, alors pourquoi ça marche? Je veux dire, moi, j'ai déjà tapé sur des rochers plein de fois. Il n'y a pas d'eau. Et si tu me dis, ça aurait été un grand miracle que Moshe parle et qu'il y ait de l'eau. Et alors, c'est pas moins un miracle quand il tape et qu'il y a de l'eau. En termes de miracle, on est pareil. Hein, et la main. La grande différence, répond Dieu. Vayomer Hashem. D'ailleurs, il y a marqué Vayomer Hashem. Lorsque Dieu veut parler de manière dure, parce qu'on a fait une avéra, il y a marqué Vayedaber. Vayomer, c'est Milashon Raka. C'est gentil. Vayomer Hashem, El Moshe Vel Aaron. Yan lo ementem bi lagdisheni le'ene bene Israel, lachen lo taviu et akal azé el haaretz. Asher natati lahem, hema me meriva, asher ravu bene Israel et Hashem, veikadesh bam. Ma? Dit Dieu à Moshe, très bien. Tu as choisi, mon ami? Donc, tu ne rentres pas en Israël. Non ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais je vais t'expliquer. Moshe, je t'ai laissé deux choix. Soit tu prends le bâton et tu tapes, soit tu parles et le rocher il donne de l'eau. C'est vrai, Moshe. Il y a 40 ans, il y a eu exactement la même situation. Et là-bas, je t'ai dit clairement, tu prends le rocher, tu prends le bâton, tu tapes. Mais quelle est la différence entre les deux situations? Le peuple juif a changé. Il y a 40 ans, le peuple d'Israël qui était face à toi, c'était ce peuple juif qui vient de sortir d'Égypte. C'était des esclaves qui venaient d'être libérés. Autant te dire, des bébés. Ils n'y connaissaient rien à la responsabilité qu'ils devaient prendre face à leur vie. Ils étaient complètement dépendants de leur patron. Avant, c'était les Égyptiens, maintenant c'est toi. Et donc, dans un cas où le Bnei Israël sont encore des bébés, eh bien, c'est à toi d'agir. Et donc, il y a 40 ans, je t'ai dit, tu prends le bâton, tu tapes, et puis on n'en parle plus. Maintenant, Moshe, tu vas avoir un mifran, tu vas avoir un examen. Est-ce que tu es conscient du peuple qui est en face de toi? Tu es le mani, tu es le chef, Moshe. Mais un chef doit savoir qui est sous ses ordres. Qui est le peuple de qui tu es responsable? Et donc, je te donne deux masloulim. Soit tu penses qu'ils sont comme il y a 40 ans, tu penses qu'ils n'ont pas évolué et que donc c'est encore toi qui dois tout faire miraculeusement. Et donc, tu prends le bâton et tu tapes. Ou tu comprends que c'est un nouveau peuple juif qui est face à toi. Le peuple qui va prendre possession de la terre d'Israël. Ces gens-là, ils doivent avoir un guide. Mais ils ne doivent pas avoir un babysitter. Ils doivent avoir un guide qui leur montre la voie. Mais ils ne doivent pas avoir quelqu'un qui leur fait le boulot à leur place. Ils doivent avoir quelqu'un qui leur explique comment faire. Mais il doit également les laisser faire. Si tu parles au rocher et que le rocher donne ses eaux, eh bien les Bnei Israël verront que quelqu'un qui n'est pas toi peut agir. Et à ce moment-là, ils comprendront que c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ainsi, Akadosh Baruch Hu ne punit pas Moshe. Il lui dit tout simplement, « Lachen, l'otaviu et akal, hazé, el haaretz. » Donc, vous ne pouvez pas accompagner ce peuple-là en terre d'Israël. Si vous aviez dû accompagner le peuple d'il y a 40 ans, pas de problème. Mais là, c'est ce peuple-là qui va rentrer. Eux, ils sont capables de réaliser le projet divin. Et si toi, tu es là et que tu fais tout le boulot, tu gênes. Machal lema davar domé. C'est quoi l'exemple qu'on pourrait avoir de tout cela? Eh bien, c'est un exemple, Rabotaï, que ma femme, elle me dit tout le temps que je tombe dedans. Et oui, j'ai un problème compulsif avec le fait que les choses doivent être rangées. Ça, c'est mon passage à l'armée. Tu vois, j'ai fini l'armée depuis, depuis, allez, 14 ans. Non, 13 ans que j'ai fini l'armée. Eh bien, il y a encore des trucs qui sont encore dans la tête comme un tapé de la tête. Hein. Ah, je me suis tellement fait punir parce que j'ai pas rangé mon lit, parce que j'ai pas bien rangé mes affaires. Ah, j'ai tellement été de Shabbatot coincé à la base à cause de ça que ben, mal à la sorte, ça m'a chamboulé. Hein. Et donc, moi, je déteste quand les choses, elles sont pas rangées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je range. Mais alors, je range quoi? Le balagan fait par mes enfants. Bien sûr qu'ils peuvent ranger. Mais qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Allez, laisse tomber, ça sera plus vite fait, ça sera mieux fait si c'est moi qui le fais. Résultat des courses, tu ne les laisses pas faire. Et ils ne pourront jamais apprendre, et ils ne pourront jamais grandir. Mon cher Abel, si c'est toi qui agis, ils n'auront vraiment jamais se débrouiller. Quand tu ne seras plus là, ils vont retomber. La reine d'Otavio est à Kaalazé. Ce peuple-là, il ne peut plus être guidé comme leurs parents. Ce n'est pas une punition, Rabotaï. C'est juste que Moshe, il vit dans un monde qui n'est pas propice à l'entrée en Eretz Israël. Moshe vit dans le monde du miracle. Vit dans le monde où il n'y a que Moshe qui peut faire quelque chose parce qu'il y a lui qui est en contact avec Dieu. Quand vous demandez aux Juifs, Stam, à nous, pourquoi Moshe n'est pas entré en Israël, on va te parler de l'histoire du rocher. Mais quand tu demandes à Moshe pourquoi il n'est pas entré en Israël, lui, il dit autre chose. Dans le livre de Devarim, Moshe, il dit, Sefer Devarim, Perek Aleph, au verset 21, Dieu t'a donné la terre d'Israël. Allez, resh, kasher diber, Hashem, Elohe avotech alach, al tira, al techat. Vas-y, prends en possession. Moshe est en train de nous re-raconter l'histoire. Et là, vous êtes venus tous me voir et m'avez dit, non, envoyons des explorateurs. J'ai dit, ok. En fait, Moshe est en train de nous reparler de l'histoire des explorateurs. Et vous vouliez pas monter en Israël. En fait, il repasse en boucle. La faute des explorateurs. Et il dit, va au mar alechem. Et je vous ai dit, lo ta'artzun ve lo tireun mehem. Hashem Elohechem ha'olech lifnechem. Oui, lachem lachem. Dieu, il va faire la guerre pour vous. Exactement ce que je vous avais dit quand on était devant la mer et que les Égyptiens étaient derrière. Hashem, il lachem lachem. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר אשר היית אשר נשא אחר השם אלוהיך כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם את המקום הזה, ובדבר הזה עיניכם מאמינים בהשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותיכם, באש לילה לראותיכם בדרך, אשר תלכו בם, ובענן יומם, וישמע השם את כל דבריכם, דיו אנטונדוס ואותרו ופלנט, ויקצוף, וישבע למור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה, אשר נשבעתי לתת לרדת לאבותיכם, זולתי כלב בן יפונה, הוא יראה, ולא אתן את הארץ, אשר דרך בה, אשר דרך בה, ולבניו יען אשר מילא אחרי השם, אלא משה נודי, וגם בי יתענף השם בגללכם, גם אתה לא תבוא שם. Enfin, nous avons la vraie raison de pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël, à cause des explorateurs. Pas que lui ne voulait pas rentrer comme eux, mais parce que Moshe leur a dit, vous inquiétez pas, tout va être miraculeux. Ah, tu crois que ça va être miraculeux? Miraculeux, c'est dans le désert. Baharet, il faut bosser. Baharet, il faut prendre la responsabilité du Tikkun Olam. Tu peux plus laisser Dieu faire tout ou Moshe faire tout. Et donc, dans notre histoire, il faut que Moshe prenne conscience que maintenant, l'ère Moshe est terminée. Que maintenant commence l'ère d'Ibn Israël. Je vous le rappelle, Dieu a fait une promesse à Abraham. Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham ? ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה דל הברית בין הבתרים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה זרעך. Nous sommes comparés aux étoiles du ciel. Nous sommes comparés aux étoiles du ciel. יפה מאוד. Et c'est à nous, les étoiles du ciel, que Dieu a donné la terre d'Israël. Nous, ma baïa, quel est le problème? Ben, je vais vous dire. À propos de Moshe, il est dit dans la Talmud, dans le traité de Baba Batra, Venatata me'odecha alav, velo kol odecha. Lorsque Moshe doit faire la passation de pouvoir avec Yoshua, il y a marqué Venatata me'odecha. Tu donneras un peu de ta grandeur à Yoshua, mais pas toute ta grandeur. Zekenim shebeoto ador. Les skenim qui ont vu et Moshe et Yoshua, on dit, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. Le visage de Moshe ressemble au soleil et le visage de Yoshua ressemble à la lune, rabotai. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Moshe, il est soleil. Lorsque tu sors dehors et que tu vois le soleil, tu vois pas les étoiles. Elles sont là, mais tu les vois pas. Elles sont cachées par la lumière du soleil. Moshe, quand tu es avec les Bnei Israël, tu leur fais pas de l'ombre. Tu les éclipses complètement. Tu es trop Moshe. Les Bnei Israël ont besoin d'un guide, bien sûr. Ils ont besoin d'Yoshua. La Levana, dans le ciel, tu regardes, tu vois la lune. Tu vois qu'elle est plus grosse que les étoiles. Tu vois qu'il y a un chef. Mais non seulement elle ne masque pas les étoiles, mais elle leur laisse à chacune leur place pour briller et scintiller. Moshe ne rentre pas en Israël, pas parce qu'il a fauté, chas v'shalom, mais parce qu'il n'est plus en phase avec le rôle que doit jouer le manig, le dirigeant, dans la rentrée en terre d'Israël. Le dirigeant en Israël doit être quelqu'un qui dirige, mais qui laisse les autres agir. Moshe, il est tellement parfait que c'est lui qui fait tout. Moshe le comprend. Moshe le comprend très bien. Et à ce moment-là, dès la suite de cet événement-là, eh bien Moshe a totalement compris et va préparer l'entrée en Eretz Israël, même s'il sait que lui ne rentrera pas. Vaishlach Malachim, Vaishlach Moshe Malachim Kadesh El Melech Edom. Voilà, on commence à prendre notre rentrée dans la famille politique. On envoie des émissaires au roi de Edom en disant « on arrive ». Am Israël maintenant est prêt à prendre sa responsabilité en main. Bon irait. Moshe ne rentrera pas en Israël, maintenant tout le monde le sait. Myriam est morte et Aaron meurt également dans notre paracha. Les trois figures des miracles. Aaron, Anané Akavod, Myriam, le puits, Moshe Bichlal. Eh bien, deux d'entre eux sont morts et le troisième ne rentrera pas avec nous. L'ère des miracles est terminée. Vaïssou Mehor Ahar, après la mort de Aaron, דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה הליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. On n'en peut plus de la manne, nous disent les bnei Israël. Ça me rappelle quelque chose. Ils avaient dit pareil dans la parashat Baalotecha. Oui, mais dans la parashat Baalotecha, on avait dit que c'était de la chutzpa, parce qu'ils voulaient de la viande alors qu'ils en avaient. Là, ils disent, on veut du pain. Vas-y, on veut du pain. T'as de la manne. Non, t'as pas compris. On veut plus d'un pain miraculeux. On veut du pain qu'on est obligé de bosser, de planter, de cultiver, de moudre. On veut bosser, ça y est. On veut prendre part à la construction de ce monde. On est prêt à sortir du monde des miracles et à rentrer dans le monde de la réalité. Ah bon? Ah ben alors très bien. Vaidaber Ezra, Vaishallah Hashem Ba'am et Anechashim Aserafim. Vas-y, Vaishallah Hashem Ba'am. C'est à mettre en relation avec Vaishallah Noach et Ayona. Dieu a envoyé les serpents. Vas-y, il les a envoyés. Ils ne sont pas miraculeux, les serpents. Il a juste ouvert les Anané Kavod. Quand tu es dans le désert, il y a des serpents. Ils étaient là tout le temps. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer à cause des Anané Kavod. Tu demandes de la nature. Bonne idée. Comment tu gères la nature? Et à ce moment-là, les serpents arrivent. Anachash zateva. Le nachash, le serpent, est rond, comme le cycle naturel. Veshalach Hashem ba'am et anachashim aserafim v'nashechu et am v'yamot am rav miYisrael. Les bnei Israël se rendent compte que ça va être dur de gérer le serpent. De gérer la nature. Va'avoam el Moshe va'amru chatanu, ki dibarnu ba'Hashem ubach, itpalel la'Hashem, va'yaser me'alenu et ha'nachash, va'itpalel Moshe ba'ad ha'am, va'yomer Hashem el Moshe, aser lecha saraf, v'sim oto al nes, va'ya kol ha'nashuk v'ra'a oto v'chai, va'yas Moshe nachash nechoshet, va'yasimu al nes, va'ya im nashach ha'nachash et ha'ish, והביט על הנחש נחושת וחי. C'est bizarre cette histoire. Dieu dit à Moshe, fais une statue de bronze avec une forme de nachash. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il lui a dit, assez lecha saraf, fais un truc qui brûle. Et Moshe a fait un nachash. Parce qu'il veut maintenant expliquer au Bnei Israël. Tu as du mal avec la nature, avec les serpents. Sache que si tu veux t'en sortir, c'est par les forces de la nature. Tu dois apprendre à dompter cette nature. Et donc, je vais te faire le remède au mal par le même mal. Ce qu'on va appeler aujourd'hui en médecine des sérums, fait par le venin des serpents. Un antidote contre les blessures des serpents. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Moshe, Dieu aurait pu lui dire, tu fais 1, 2, 3, tu fais tourner le bâton 3 fois en l'air et plus personne n'est mordu. Sauf que non. Cette fois, Moshe va faire exactement ce qu'il aurait dû faire là-bas. Il leur montre le chemin, mais c'est à eux de l'emprunter. Il fait son arrache des rochettes, mais ce n'est pas que ça guérit tout le monde. Lorsque Bnei Israël le regarde, alors ils sont guéris. Et nous dit la Mishnah, « Hey, Mastor Meret, Vechi Nachash Memit » נחש מחיה אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפאים. Ce n'est pas Moshe qui guérit les bnei Israël. Moshe il fait le serpent. Mais si les bnei Israël regardent vers le ciel et comprennent que ce serpent symbole de la nature n'est autre que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors ils sont guéris. Rabotai, vous vous rappelez qu'on a commencé notre histoire avec Quetzalcoatl, le grand serpent à plumes chez les Aztèques. Pour eux, le Mashiach, eh bien, c'était un grand serpent qui vient de la mer et qui vient les libérer. Am Yisrael ne pense pas que le serpent vient les libérer. Zenachon, chez Nachash, en Gematria, c'est fait le mot Mashiach. Zenachon. Mais pour que Nachash devienne Mashiach, alors il faut que Am Yisrael, que l'homme dans ce monde, apprenne à l'utiliser. Il est fait. Nachash, à partir du moment où ce symbole de la nature, tu l'as utilisé toi, et tu as pris cette nature pour en faire quelque chose de relationnel avec Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a plus de différence en fait entre la nature que Dieu a créée et la façon dont toi tu vas pouvoir te t'attacher à lui. Alors en fait, tu as pris le Nachash qui était rond et tu en as fait une ligne droite qui t'amène vers Akadosh Baruch Hu. Ce Nachash Nechoshet est la conclusion de la sortie d'Égypte, puisque les Égyptiens se baladaient avec des Nechashim un peu partout, car ils étaient dominés par la nature, on l'avait déjà expliqué. Eh bien, les Béné Israël, en mettant le Nachash Nechoshet al Nes sur un bâton en ligne droite, eh bien, font comme on fait avec notre filine, où on prend les serpents ronds des Égyptiens et on en fait des lignes droites pour nous montrer la droiture de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Parashat Roukat est la paracha où les Béné Israël, ça y est, sont prêts à prendre leurs responsabilités et à non seulement conquérir la terre d'Israël, mais amener Tikkun Olam Bemalchut Shaddai. C'est pour ça que notre paracha termine en disant « Vayomer Hashem el Moshe, al tira oto » par rapport à Og Melech Habashan, le dernier combat de la paracha. Dieu lui dit, n'aie pas peur de lui. Ki beyadecha natati oto ve'et kol amo ve'et arzo ve'asita lo ka'asher asita le'sichon melech ha'emori asher yoshev b'cheshbon ve'yaku oto ve'et banav ve'et kol amo ad bilti yisher lo sarid ve'yereshu et arzo. C'est qui a frappé Og? C'est plus Moshe. C'est les Béné Israël. Les Béné Israël sont prêts et ont fait leur première conquête en terre d'Israël. Notre paracha, c'est le moment de la conquête du Golan. Og Melech Habashan, Zéa Golan. En d'autres termes, Moshe et les Béné Israël, ça y est, ont pris leur destin en main et ont conquis le Golan pour aller faire un petit tioul et tout, et pour enfin pouvoir dire, nous sommes prêts à être responsables du rôle que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Shabbat, Shalom, Lekulam.
Zagou Baruch.
Zagou Baruch.